effectivement, alors faites-moi signe, parce que je n'ai pas l'habitude de parler, de voir une assemblée avec le masque. Donc s'il y a un souci pour m'entendre, notamment en fond, n'hésitez pas à vous manifester. Bien, donc on vient de vous le rappeler, il m'a demandé de vous parler de la Grèce antique, et plus particulièrement de son système religieux. Et il est clair que quand on parle de la Grèce antique, on est face en général à une série d'attentes, des aspects religieux, c'est-à-dire bon, la Grèce antique, pour la plupart d'entre nous, c'est le lieu de naissance de la philosophie, de la science, de la rationalité, des mathématiques, de la biologie avec Aristote. Et donc il y a une sorte de pression qui s'installe tout de suite quand on parle de la Grèce antique, avec cette sorte d'héritage que bon nombre de nos concitoyens considèrent comme fondateur de notre propre culture. Mais il ne vous échappera pas que dès qu'on parle de religion, là l'héritage s'arrête. Et donc, et c'est pour ça que j'ai pris comme première diapositive la couverture de ce livre donc, qui est paru en 2016, de Jacques Attali et de Pierre-Henri Salfati. Bon, livre, je ne vous conseille pas du tout, mais c'est à titre, d'exemple pour vous montrer que quand on parle du destin de l'Occident, en général, on a Athènes, donc c'est tout ce que je viens de vous dire, mais on a Jérusalem, parce qu'évidemment la Grèce et la religion ne font pas partie de l'héritage, en tout cas comme religion. Donc on voit bien là qu'il y a une rupture. Une rupture que voilà, je voudrais un peu interroger d'emblée. Et donc, alors qu'il y a une familiarité assez grande avec notamment la politique, la démocratie, enfin c'est quelque chose qu'on nous rappelle très souvent, avec la religion, il y a cette rupture. Alors ça ne veut pas dire évidemment que les dieux grecs ne sont pas connus, loin de là, mais ils sont confinés dans le registre de l'érudition. Dans le registre de l'érudition ou celui des musées, où vous poussez la porte de n'importe quel musée, vous allez avoir des dieux grecs et des dieux romains, puisqu'il m'en faut, mais dans cette situation où ils sont en fait donc, confinés dans ce registre de l'érudition, c'est-à-dire que les statues que vous avez sous les yeux, qui ont été réalisées en général pour des sanctuaires, en antiquité, sont en fait complètement déconnectées du lieu pour le... Et au-delà de cet aspect muséologique, il y a évidemment aussi le beau récit de la mythologie, où les dieux sont mis en scène, mais ils n'ont évidemment aucune substance religieuse, au sens général que nous donnons à cet adjectif. Et donc, ce sont d'aimables fantaisies, ou des objets émerveillants, dans le registre de l'histoire de l'art. Et c'est à rectifier cette vision un peu convenue que je voudrais m'attacher ce soir, en vous donnant une version que je trouve plus juste de ce système et que j'espère aussi plus intéressante. Même si, encore une fois, le registre de l'érudition a toute sa légitimité, ça fait partie d'un héritage, il faut l'assumer. Simplement, on ne peut pas rabattre sans précaution cette appréhension d'aujourd'hui par rapport à ces données du passé, les rabattre simplement et sans précaution sur la manière dont les anciens, eux, ressentaient ces sculptures, ces récits, ces activités rituelles. Donc, je voudrais rectifier cette vision des choses et ce sera en fait la deuxième partie de mon exposé parce que je voudrais d'abord faire une première partie. On vient de rediscuter par mail avec M. Gézio. Donc je la défends, même si vous essayez de dissuader de la présenter. Mais je plaisante. En première partie, mais elle sera brève, je vous promets, je voudrais esquisser un peu le cadre méthodologique de toute étude scientifique des religions. Parce qu'en fait, c'est ça mon métier. Je suis historienne des religions, alors avec un terrain spécifique. Mais je dirais l'objet religion m'intéresse dans sa globalité. Et je voudrais vous en parler un bref moment pour mettre un peu un arrière-plan, pour dessiner un arrière-plan qui pourra aussi peut-être vous donner une matière à penser pour les autres systèmes religieux auxquels vous êtes confrontés dans ce parti. Voilà, j'ai la faiblesse de penser que ça pourra peut-être servir. Et donc, cela nous donne comme menu cette démarche un peu méthodologique tournera en fait autour de la notion même de religion que l'on emploie sans trop y penser dans le langage courant, mais qui, pour une chercheuse comme moi, devient évidemment un outil d'analyse, ce qui impose des critères et une réflexion. Le polythéisme grec, donc la deuxième partie, qui est finalement ce que j'évoquais il y a un instant. Et enfin, la troisième partie, qui est en fait une conclusion, comme vous êtes tous engagés sur des terrains très, très diversifiés, mais où vous êtes notamment dans la vie politique et dans la réflexion sur ces questions, je voudrais juste vous donner un titre, peut-être pour ouvrir le débat ensuite, quelques réflexions un peu plus actuelles que les obsessions antiques. Et donc, je commencerai par le commencement, donc religion du mot concept. Donc ce que j'entends par là, c'est du mot, du terme du langage courant au concept qu'utilise un chercheur comme moi. Et si je vous demandais, bon, on ne va pas faire l'exercice parce que ça nous prendrait trop de temps, mais si je vous demandais de but en blanc, là tout de suite, de me dire ce que vous inspire le terme de religion, je ne pense pas me tromper beaucoup en me disant qu'on aurait comme réponse il y a une révélation, il y a une croyance ou des croyances, il y a des rituels et il y a un clergé ou en tout cas des personnes chargées d'une forme d'autorité religieuse. En général, quand on évoque la notion de religion, ce sont ces éléments-là qui se font jour. Or, d'évoquer, pas tous, mais un certain nombre quand même, sont en fait inadéquats pour saisir bon nombre de ce que nous appelons en première instance des religions, à la fois dans la diachronie et dans la géographie. Donc, en tout temps et en tout lieu, tous les critères que je viens d'évoquer ne sont pas nécessairement pertinents pour parler de société, ces sociétés humaines. Et on s'aperçoit en fait très vite qu'en nourrissant la définition de la religion comme je viens de le faire, on projette en fait sur ce dont on voudrait faire un concept analytique pour l'ensemble des religions du monde, provient de notre propre expérience d'Européens du monde contemporain, qu'on soit croyant ou pas, ça n'a pas d'importance, c'est la culture à laquelle on appartient. Et en fait, ce sont des critères qui sont commandés par notre vision des monothéismes universalistes. Et donc, il faut en fait déconstruire cela pour arriver à faire de religion un concept qui soit véritablement opératoire dans la recherche scientifique. Et donc, pour avancer dans cette réflexion méthodologique, je voudrais vous dire deux mots. Vous aurez vite l'occasion de vous rendre compte que je suis quelqu'un qui est très attentive aux mots et à la définition même des mots que l'on utilise dans la démarche. Or, de ce point de vue, il est très intéressant de réfléchir un bref moment sur l'étymologie même du mot religion. Ce qui va nous permettre, parce que ça c'était une demande qui m'avait été faite aussi, d'élargir la réflexion que je vous ferai en deuxième instance sur le polythéisme grec au monde romain. Parce que fondamentalement, le polythéisme et le grec sont très proches l'un de l'autre. Très proches, mais avec des nuances néanmoins. Mais partons de religio en latin, puisque c'est le fondement étymologique de notre notion de religion. Alors, donc, origine latine, et dans la langue de Rome, le terme désigne en fait, vous avez mis une première définition ici à l'écran, l'accomplissement scrupuleux des rituels visant à prendre soin des dieux. Ça c'est une première définition que je peux vous donner de la notion de religio, donc pour les Romains. Religio, c'est-à-dire on cultive la relation que l'on et l'harmonie de cette relation fait que la cité de Rome se porte bien. Donc vous avez cette espèce de contrat entre les dieux et les hommes. Et religio, c'est vraiment ça, c'est l'attitude scrupuleuse dans le respect des règles qui sont demandées dans ce contexte. Et donc, cultiver les dieux, c'est donc d'accomplir des sacrifices, des offrandes, toute une série d'actes qui sont commandés par la tradition. Sachant que dans ce système, la tradition est évidemment quelque chose d'extrêmement fondamental, de tout à fait fondamental. Sachant aussi que la tradition peut parfois n'être qu'un mot sur désigner des données beaucoup plus récentes que l'on ne s'y attendrait. La tradition n'est parfois que le voile jeté sur des nouveautés, mais auxquelles on donne une légitimité. Donc il faut parfois un peu nuancer la notion de tradition. Donc, est centrale dans ces systèmes. Soyons clairs, nous ne sommes pas dans des systèmes fondés sur une révélation, fondés sur une écriture sacrée, fondés sur des dogmes. Non, nous sommes dans le cadre d'une pratique traditionnelle qui fait interagir une communauté humaine avec ses dieux par le biais d'actes posés en l'honneur de ses dieux. Donc c'est ce qu'on appelle généralement une orthopraxie plutôt qu'une orthodoxie. C'est une des différences fondamentales. Et donc, à partir du moment où on est citoyen romain ou citoyen d'une cité grecque, dans le cadre de cette définition de la citoyenneté, s'inscrit l'établissement scrupuleux des rituels visant à prendre soin des dieux de la cité en question. Et ça, ça vaut à la fois pour Rome et pour les cités grecques. Sachant évidemment que Rome est une cité qui est devenue un empire, du côté de la Grèce, c'est un peu différent d'un point de vue politique, vous le savez sans doute. Entre le 8e siècle avant notre ère et puis la conquête romaine, on va dire, quand la Grèce s'inscrit dans l'Empire romain, dans le cadre de la République romaine à la fin du 2e siècle avant notre ère, et puis avec Auguste au début de notre ère dans le cadre de l'Empire, on a affaire à un système politique qui n'est pas du tout unifié. C'est dans une certaine mesure, ce n'est qu'une réalité culturelle. La Grèce n'a jamais été, dans l'Antiquité avant la conquête romaine, une entité politique unifiée. Vous aviez affaire, au 4e siècle avant notre ère, à 1030 cités indépendantes les unes des autres. Il faut bien avoir cela en tête aussi. Donc ça, c'est aussi une des différences entre Rome et cet émiettement du pouvoir politique en Grèce. Et chaque cité avait sa propre combinaison de dieux et de héros, donc, alors, avec une communauté, évidemment, bien entendu, il y a cette espèce de maillage culturel, mais politiquement, c'était chaque fois des entités spécifiques. Donc, être citoyen d'une cité, c'est aussi remplir ses devoirs à l'égard des dieux de la cité en question. Donc, la religio, je reviens à Rome avec mon étymologie, la religio, nous appelons la politique. Si vous voulez, les deux, l'identité d'un citoyen, que ce soit dans le contexte romain ou grec, l'identité du citoyen, donc ce que nous, en tant que modernes, nous appelons l'identité politique, est absolument indissociable du religieux. On ne parlera même pas d'identité religieuse, ça n'a pas de sens. C'est, vous êtes citoyen, vous êtes membre d'une communauté, donc vous accomplissez les rituels de cette communauté. Et de ce point de vue, je fais une toute petite incise. Je ne sais pas si jeudi on vous emmènera dans cette direction-là, mais de ce point de vue, le judaïsme est assez proche des polythéismes antiques. Ce n'est pas c'est vraiment, de ce point de vue-là, la tradition et l'accomplissement des rites en contexte juif est très très important. Et à cet endroit, si vous voulez, il se rapproche plus des polythéismes antiques que de l'islam et du christianisme, par exemple. C'est assez intéressant de voir cette communauté d'orthopraxie, alors qu'on est dans le cadre d'une religion révélée. C'est totalement satisfaisant pour saisir la diversité des expériences humaines. Alors, donc, des dieux qui sont en quelque sorte concitoyens, ils font partie de la cité. Donc, on leur rend culte, on prend soin d'eux, parce qu'ils sont des concitoyens. Et ça, c'est aussi un aspect très important des polythéismes antiques, quel qu'il soit. D'ailleurs, on vous a parlé de la Mésopotamie, j'imagine que mon collègue a dû vous en parler aussi. Les dieux antiques sont immanents, ils ne sont pas extérieurs au monde. Contrairement aux dieux des chrétiens, des musulmans et des juifs, le dieu n'est pas créateur du monde, il n'est pas extérieur au monde. Les dieux sont à l'intérieur du monde, ils en font partie, ils sont nés avec lui. Donc il n'y a pas d'acte démiurgique, si vous voulez, de création extérieure au monde, 5-6, qui peut se nouer entre une communauté et ses dieux, c'est très important. C'est pour ça que je parle de dieux concitoyens, même s'il faut des guillemets, évidemment. Mais il y a... La négociation est possible. Vous voyez, il y a une sorte d'interaction, alors pas totalement horizontale, parce qu'un dieu est toujours quand même une entité beaucoup plus puissante que les hommes, mais néanmoins, il faut dire ça comme ça, et le caractère immanent rend l'interaction très différente d'autres systèmes transcendants et avec une monarchie divine. Là, on a une, je ne vais pas dire une démocratie divine, mais en tout cas une pluralité considérable. La religion, dans ce cadre-là, la religio romaine, c'est un ensemble de comportements déterminés dans le cadre de la cité. Donc ce cadre est fondamental, même si, bien entendu, il y a aussi des démarches individuelles, et elles sont nombreuses. Mais il n'y a pas dans ce monde-là ce que nous pourrions appeler une religion personnelle. Ça n'a pas de sens. Il y a une intérêt choisi à un moment donné dans un objectif déterminé, mais il n'y a pas la construction d'une spiritualité ou d'un mysticisme qui créerait cette espèce de relation privilégiée et presque unique entre un fidèle et son Dieu. Ça, on est dans un registre, là encore, qui est différent. Alors, ce qui m'intéresse... Et donc, dans ce cadre, oui, juste encore un mot là-dessus, dans ce cadre de la religio, puisque je suis toujours dans l'étymologie, vous voyez, il n'y a pas, ce n'est pas quelque chose d'uniforme, c'est-à-dire chacun a sa manière de prendre soin de ses propres divinités. Ça, gardez ça en mémoire, on y reviendra tout à la fin. Mais alors, que se passe-t-il dans le christianisme? Ça me permet de vous dire un mot à ce stade d'une autre distinction qui est fondamentalisme antique et les religions monothéistes à vocation universelle. Et pour vous donner la réponse à ma question, donc que devient le terme religio quand le christianisme arrive sur le devant de la scène, puisqu'il est évident que les intellectuels chrétiens écrivent en latin ou en grec, de ceux qui écrivent en latin, mais vous avez un père de l'Église comme Tertullien, donc qui a vécu à la fin du deuxième siècle, qui a écrit à la fin du deuxième siècle de notre ère. Tertullien, dans son apologétique, utilisera le mot religion puisqu'il parle en latin, cet homme-là, et il va en fait qualifier la religio qu'il n'aurait jamais utilisé. C'est-à-dire que vous voyez, si vous avez fait un peu de latin, mais la traduction vous dit, vous n'avez pas besoin d'avoir fait du latin, mais si vous voyez le mot religio au milieu de ma citation, vous avez vera religio veri dei, c'est-à-dire la vraie religion du vrai Dieu. Eh bien, avec cette simple phrase de quatre mots, vous avez tout le changement de paradigme du christianisme dans l'Empire romain. C'est-à-dire que là où vous aviez un ensemble d'actes posés par des communautés humaines à l'égard de leur propre Dieu pour entretenir une bonne relation avec eux, avec à côté une autre communauté humaine qui faisait exactement la même chose, vous avez un positionnement qui va s'effectuer désormais en termes de vérité et d'erreur. Ça change complètement la perspective. Une religio vera, pour un romain, ça n'a pas de sens. Pour un chrétien, c'est vrai. Chrétien comme Tertullien, c'est fond de son rapport à son Dieu. Et donc, on passe de l'attitude scrupuleuse dans l'accomplissement d'actes rituels pour prendre soin des dieux, à l'adhésion volontaire à une croyance fondée sur la révélation de Dieu lui-même. Vous voyez que là, on a changé complètement de paradigme. Et donc, nous avons affaire à un système transcendant versus immanent, révélation versus tradition, il y a cette articulation autour de la vérité qui est quelque chose de fondamental pour comprendre la transformation fondamentale qui s'opère.
Et juste une question.
N'hésitez pas, hein, s'il y a quelque chose, ça ne me pose aucun problème, hein, n'hésitez pas à m'interrompre.
La vérité, tu entends bien. Mm-hmm. Mais les Grecs du 5e siècle, quand ils voyaient les Perses par exemple, ils n'estimaient pas qu'ils étaient dans l'erreur?
Non.
Ils estimaient que c'était des barbares avec leur propre religion?
Voilà! C'est-à-dire que, et ça je vais y revenir un peu plus tard, le rapport à la religion des autres est quelque chose qui est totalement différent. C'est-à-dire que la notion de barbare, elle porte notamment sur un langage, c'est-à-dire que l'onomatopée, hein, ça veut simplement dire qu'il ne parle pas grec, vous le savez. Donc c'est simplement qu'il parle un langage inaudible. Et puis surtout par rapport aux Perses, c'est le fait qu'ils sont soumis à un despote. Ça, c'est fondamental dans le jugement de valeur. Leurs dieux sont évidemment respectables, c'est les leurs. Et il n'y a aucune raison d'aller les évangéliser. Vous voyez, il n'y a pas de prosélytisme, ça n'a aucun sens. Mais ça, je vais y revenir tout à l'heure.
Moi, j'aurais une autre question.
Dites-moi, monsieur.
On a commencé ce voyage ensemble avec Léa Chabert en allant très loin dans le passé, en constatant l'émergence d'un fait religieux. En revanche, d'après ce que vous disiez, le fait religieux ne s'accompagne pas systématiquement d'un commerce mystique avec Dieu.
Ah non, pas du tout. Et pour...
Y compris pour quelques-uns, enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est une découverte, du coup, qui arrive seulement avec le monothéisme, en quelque sorte.
Alors, c'est toujours très très difficile d'aller dire il n'y a pas avant et à un moment donné, ça surgit. Moi, ce que je constate, en tout cas, dans les terrains que j'explore, c'est que dans les textes qui me sont donnés, puisque bon, je travaille sur des documents, donc par exemple, je ne m'occupe pas du tout de ce qu'on appellerait la religion de la préhistoire. C'est vraiment un domaine. Donc c'est très difficile de voir l'émergence de la ligne du temps. Mais en tout cas, je vois dans les textes qui me sont donnés, quand je travaille sur les mots qui sont utilisés, que ce rapport de piété fondée sur une relation spécifique, un lien, si vous voulez, spécifique entre un Dieu qui sert, il y a quelque chose qui se passe dans le déroulement des communautés, enfin, dans le déploiement des communautés humaines. Ça, c'est sûr. Il y a là, alors ça ne s'est pas fait du jour au lendemain non plus, de ce point de vue-là, par exemple, du judaïsme, dans lequel le christianisme est ancré. J'imagine qu'on vous en parlera, n'est pas monothéiste de toute éternité. Hein. Il y a là aussi une évolution, comme je dis souvent, Dieu avait une femme. Hein. Autant, du point de vue des croyants, c'est un autre discours qui est produit, mais pour l'historien des religions, il est clair que le Dieu transcendant et unique est un produit de l'histoire. Mais ce produit, vous avez raison, a abouti à vraiment un changement de relation par rapport au monde suprême, ça assurément. Et donc, ce rapport à la vérité et à l'erreur a évidemment induit des jugements de valeur, et là je reviens à votre question, monsieur, sur la Perse, à des jugements de valeur par rapport aux religions du passé, aux religions qui n'étaient pas la religion révélée, jugements de valeur qui passent aussi par le vocabulaire. Vous avez les religions de l'Antiquité deviennent du paganisme, et ce sont des païens, ou ce sont des idolâtres, de l'idolatrie. Alors bon, paganus au départ c'est simplement celui qui habite la campagne, donc on voit bien que ça s'est chargé progressivement d'une dimension négative. Tandis qu'avec l'idolâtrie, on a une notion qui est négative d'emblée, et c'est vraiment celui qui honore les idoles. On voit bien que ça c'est quelque chose de contraire à cette vision de la verare in Dio de Tertullien. Alors évidemment, tout cela, ce vocabulaire travaille par comparaison. C'est-à-dire qu'un grec, un romain, ou un aztèque, ou un mexicain, ne se serait jamais dit païen, évidemment. C'est le regard des autres qui est dévalorisant avec un vocabulaire. Oui, et donc, je disais, passer du mot au concept. Alors, ça veut dire que quand on parle de religion et qu'on a la prétention de faire de la recherche scientifique, il faut évidemment définir le concept. Tout à l'heure, je vous disais, si on essaye de mettre derrière le mot religion toute une série de données, Dieu, il y aura les rituels, etc., mais ça ne correspond pas nécessairement à toutes les communautés humaines. Or, un concept, par définition, c'est un outil qui doit permettre la comparaison aussi et de faire interagir toutes ces données. Et donc, en général, moi, ce que je considère comme une assez bonne définition, même si je pourrais vous aligner près de 100 définitions différentes de la religion issues de travaux de chercheurs, mais celle-ci me semble avoir l'avantage de la simplicité, de la clarté et d'une assez bonne applicabilité à toute une série de cultures humaines différentes. Et donc, dans cette perspective, la religion, si maintenant j'en fais un concept, c'est une institution. Alors, j'insiste sur institution parce que ça ouvre surtout la dimension collective de cet outil de travail. Donc, la religion est une institution qui régit selon le relativisme de contenu, les relations, c'est ce qu'on envisageait tout à l'heure avec religion, l'interaction, les relations avec la sphère suprahumaine. Vous voyez, je ne mets pas Dieu, parce que la sphère suprahumaine, ça peut être des esprits, ça peut être des ancêtres, ça peut être des héros, ça peut être, l'imagination humaine pour peupler la sphère. Donc, les relations avec la sphère suprahumaine, dont cette culture postule l'existence. Là, vous voyez le retrait critique de l'historien, qui évidemment suspend tout jugement sur la croyance, considère avec le plus grand sérieux ce que son terrain lui produit comme données. Évidemment, il s'agit d'une projection imaginaire, mais en suspendant le jugement relatif à cette projection. Alors évidemment, il a fallu du temps pour arriver à ce type de définition, parce que vous imaginez bien que jusqu'au XIXe siècle, jusqu'au milieu de l'Union, dans l'Europe occidentale, sans faire référence à la vérité de la religion par excellence, c'était quasiment impossible. Donc finalement, on fait de l'histoire des religions de façon non apologétique depuis deux petits siècles à peine. Donc c'est quelque chose de relativement récent. Donc voilà un peu le cadre dans lequel je voulais inscrire ma démarche, pour en venir maintenant à quelques éléments de ce polythéisme grec, sachant d'emblée, je voulais vous dire il y a un instant, si je suis partie de religio, c'est évidemment parce que c'est le fondement latin de notre mot de religion, mais aussi parce que le vocabulaire grec ne recèle pas de mots équivalents. C'est-à-dire du côté grec, si vous voulez, on va le voir tout de suite, j'ai la chose, donc la définition que je viens de vous donner, je peux l'appliquer de façon relativement adéquate à mon mot grec, mais dans le vocabulaire, je ne trouve pas de terme englobant que je pourrais traduire facilement par religion. Donc j'ai des expressions, ce qui concerne les dieux, ou les actes posés pour les dieux. Du côté grec, on a cette notion de divin qui est assez essentielle dans ce que j'appelle religion quand j'utilise le concept ainsi défini. Alors, la religion grecque, c'est un polythéisme. Alors, polythéisme, vous aurez compris que je suis une obsédée des mots, le polythéisme, même si le terme a l'air grec, et qu'il est, polythéisme en grec moderne existe, mais fondamentalement, là encore, on trouve, c'est un terme qui s'est élaboré. Contrairement à religio qui lui est ancré dans le monde latin, en fait, pour retrouver quelque chose qui a fini par donner au XVIe siècle le terme de polythéisme en français, il faut aller chez un auteur juif, un philosophe juif, Philon d'Alexandrie, au 1er siècle avant notre ère, qui va parler pour se poser en contraste de son propre système. Donc vous voyez qu'on est à nouveau dans une logique de contraste, il parlera de la polythéia, c'est-à-dire la multiplicité des dieux, ou celui qui agit de la sorte sera un polythéos, donc quelqu'un qui honore plusieurs dieux. Mais fondamentalement, on voit bien qu'un grec de l'Antiquité ne se serait jamais dit polythéos. Vous voyez, on est toujours dans cette définition par contraste. Mais là encore, c'est un concept intéressant parce qu'il souligne puissamment la pluralité qui est inhérente à ce système religieux. Il n'y a pas qu'une pluralité de dieux, il y a aussi une pluralité de rituels, il y a une pluralité dans la représentation même du monde lui-même, si vous voulez. Les dieux, ce sont, alors, ce sont des entités auxquelles les Grecs rendaient évidemment hommage, on va le voir dans un moment, par quel vecteur ils le font. Mais ce que je trouve absolument fascinant dans ce système, c'est qu'on voit aussi se profiler derrière cette représentation du monde supra-humain et sur les forces en présence dans ce monde-là. Et donc vous êtes à nouveau dans un cadre totalement immanent et c'est en fait une négociation qui dit quelque chose de la représentation du monde par les Grecs. Mais attention, les dieux ne sont pas des métaphores. Hein. Entendez-moi bien, ce sont des entités comprises et dont on attend que cette pluralité du monde des dieux est aussi liée à une certaine représentation du monde. Alors, oui, et juste encore un dernier mot, monothéisme, par exemple. Donc, polythéisme, je vous ai dit qu'il émerge au XVIe siècle. Monothéisme, comme tel, il faut attendre le XVIIe siècle. Donc, on voit bien que monothéisme s'est forgé par rapport à polythéisme. Donc, vous voyez, l'histoire des mots est toujours fascinante de ce point de vue-là. On voit émerger quelque chose qui deviendra polythéisme sous la plume d'un philosophe juif. On a le mot polythéisme qui commence à arriver par le biais des humanistes. Et puis, on forge monothéisme en contraste avec polythéisme. Donc, ces mots ne sont pas donnés de toutes les dernières. Donc, il devient antonyme de monothéisme. J'ai un cadeau de ce que je fais.
Il faut sur j'adore, ce truc. Oui, bien sûr, plaisir, Dieu, super.
Comment
ça marche bien? Charles.
Ah, d'accord.
Allez-y, cliquez.
Et comment est-ce que je clique sur j'adore, il n'y a rien. Je vais vous laisser faire.
Je vais peut-être.
Ah, voilà, je tapotais de façon un peu trop tôt. Ouais. D'accord. Très bien.
Sympa, vraiment.
Alors. Cette logique d'opposition entre polythéisme et monothéisme doit aussi, c'est pour ça que j'ai insisté sur ce point également, nous faire comprendre que l'idée d'un Dieu unique et transcendant, c'est finalement le résultat d'un développement, mais que fondamentalement, les communautés humaines, c'est plutôt l'exception que la règle. La multiplicité de l'offre divine, je dirais, ou de l'offre suprahumaine, est marque de nombreuses cultures, à la fois dans l'espace et dans le temps. Alors, je reviens à ma photographie de musée. Parce qu'évidemment, je ne vais pas entrer dans le dernier détail sur le système religieux des Grecs, mais je voudrais tirer quelques fils pour donner un peu de chair aux considérations générales que je viens de vous présenter. Et précisément pour sortir ces statues de leur statut, pour leur rendre en fait leur statut d'objet de culte. C'est pour ça que je commence par revenir sur cette image. Donc, ces œuvres dont nous admirons la blancheur du marbre, l'élégance de la forme, l'équilibre de l'anatomie, étaient en fait donc des cadeaux qui étaient faits aux dieux. Dans le cadre de cette manière de cultiver l'hommage, de cultiver la relation avec les dieux, ces objets donc, faisaient partie de cette culture et consistait en autant de cadeaux qui étaient faits aux dieux sous la forme de dédicaces. Donc n'importe quelle statue divine dans un sanctuaire faisait l'objet d'une dédicace. Donc c'est vraiment une démarche d'offrande, de cadeau, qui est constituée dans ce cadre-là. Mais vous devez savoir aussi, parce qu'il faut toujours relativiser les choses, que fondamentalement, fondamentalement, cette dédicace, elle est accessoire dans un sanctuaire. Ce qui est fondamental dans un sanctuaire, et ici je vous ai pris quelques illustrations de vases produits à Athènes au 5e siècle avant notre ère, vous voyez que ce qui est essentiel dans ces différentes images, c'est l'autel. Fondamentalement, la statue, elle est accessoire. C'est un ornement, c'est un cadeau qu'on fait à la divinité, mais le lieu de l'interaction, c'est l'autel. Donc, si vous avez un autel, fut-il provisoirement élaboré et limité dans le temps, si vous avez un autel et une offrande qui peut être quelque chose d'extrêmement modeste, vous pouvez entrer en relation avec une divinité et interagir avec elle. Et vous voyez tout de suite que ce constat relativise évidemment beaucoup la notion d'idolâtrie. Parce que fondamentalement, quand on regarde le système de l'intérieur et non plus avec le regard polémique de la vera religio religii, fondamentalement, on n'adore pas les statues. Les statues, ce sont des offrandes qui vont présentifier l'invisible. Mais ça, je vais y arriver dans un instant. Donc, vous voyez ici les actes fondamentaux de la piété antique, et ça vaut aussi bien pour la Grèce que pour Rome, c'est cette offrande, alors soit ici en haut, vous voyez ici, une simple libation, avec probablement des végétaux dans le panier ici, qui servait à honorer la divinité, mais surtout l'offrande d'un animal, ici vous avez un porcelet, et ici en fait, on ne voit plus l'animal entier parce qu'il était ma souris, et embroché ici, dans les mains du jeune homme couronné, vous avez les viscères de l'animal qui vont être consommés par les participants au sacrifice en même temps que brûle la part du Dieu sur l'autel. Là, vous avez devant vous le cœur véritablement essentiel du système religieux. C'est cette offrande d'un élément végétal aussi, mais je dirais que la quintessence de l'offrande, c'est quand même toujours l'animal, avec donc une partie qui est consumée pour les dieux sur l'autel, et l'autre qui est consommée par les hommes. Et là encore, le judaïsme antique est évidemment tout à fait intéressant de ce point de vue-là, dans la comparaison avec les polythéismes contemporains, puisque le sacrifice animal est au cœur du système, en tout cas jusqu'à la destruction du temple. Donc, vous voyez ici que dans cette représentation de vase attique, on ne voit pas de statue parce que c'est accessoire. Ce qui est essentiel, c'est l'autel. Il n'en reste pas moins que ma photo de musée n'est pas là par hasard. Il est clair que l'art grec, ce que nous appelons l'art grec, s'est essentiellement développé dans l'élaboration de cadeaux pour les dieux. Et vous voyez que ce n'est pas un vain mot. Ici, vous avez, dans une vitrine d'un musée à Chypre, l'ensemble des statues et des offrandes qu'on a mises au jour dans un sanctuaire dans l'île. Donc, on peut comprendre qu'il y a eu cette impression d'une idolâtrie, avec le nombre impressionnant que cela représente. Alors, j'ai aussi repris cette image que je trouve particulièrement intéressante et significative parce que le reproche que les premiers chrétiens faisaient, c'était précisément de confondre le Dieu et sa statue. Mais regardez cette image. Vous avez donc, je suis ici,
C'est à la fois sensible et pas sensible.
Oui, tout à l'heure je n'arrive à rien et puis là je perturbe tout.
Il veut pas remonter. Thank you.
Donc, cette image est particulièrement intéressante et vous montre aussi, d'un point de vue méthode toujours, hein, que je travaille beaucoup sur des textes, mais aussi sur des documents archéologiques de ce type-là. Et donc, vous voyez en bas, vous voyez l'autel avec le crâne d'animal. Vous avez une table à côté sur laquelle une des femmes va déposer un panier avec des offrandes. Et vous avez un personnage avec une chèvre, enfin, une chèvre sous le bras, un couteau à la main, qui s'apprête à immoler. Alors là, on voit une statue. Vous voyez, à côté de l'autel, vous avez la statue de Dionysos. Mais que voit-on au bandeau supérieur du vase? C'est le monde des dieux eux-mêmes. Et dans le monde des dieux eux-mêmes, au milieu, vous avez Dionysos. Et donc, vous avez à la fois la statue dans le monde des hommes, et vous avez le dieu, on va dire en personne, même si les dieux grecs ne sont pas des personnes, mais le dieu en personne, dans ce deuxième bandeau, qui figure le monde suprahumain. Et donc, on voit très bien dans cette image que la statue, l'objet matériel, sert à présent ce qu'on ne voit pas. Et en l'occurrence, la magie évidemment du peintre, l'art du peintre fait qu'on voit ce que d'habitude on ne voit pas, mais on constate sur ce vase qu'il y a une dissociation entre les deux. Et de ce point de vue, cette représentation de l'invisible est par un auteur du IIe siècle de notre ère, qui s'appelle Dion Chrysostome, dans son discours olympique, et c'est un discours où il fait en fait parler le sculpteur Phidias, qui a réalisé ce monstre d'ivoire et d'or, en l'occurrence la statue de Zeus Olympios à Olympie. Alors on a évidemment perdu cette statue, elle a été emmenée à Constantinople, et puis, excusez-moi, mais avec le masque, c'est assez terrible. Alors, donc c'est en fait une gravure de Kertomer de Quincy, qui date du début du 19e siècle, mais fondée Bélis, qui était la cité en charge du sanctuaire d'Olympie. Et dans son discours olympique, Dion Chrysostome va parler de cette statue, évoquer cette statue, et faire parler Phidias, donc, qui a réalisé cette statue à la fin du 5e siècle avant notre ère. Et qu'écrit Dion Chrysostome, je vous propose de lire le texte avec moi. Donc, c'est une méditation de type philosophique sur la représentation du divin. Et que dit-il? En effet, l'esprit et la pensée humaine et en eux-mêmes, nul sculpteur, nul peintre ne sera capable de les représenter, car tous les hommes sont absolument incapables de les appréhender par la vue ou par une enquête. Par ailleurs, ne pouvant en concevoir le lieu d'émergence tout en faisant l'expérience, nous nous y réfugions en attribuant au divin, au humain, comme réceptacle de l'esprit et de la raison. Hein, c'est la justification de l'anthropomorphisme, de la manière de se représenter les dieux sous un manque de modèle. Nous essayons de montrer par le biais de ce qui est visible et représentable, ce qui est non représentable et invisible. Donc vous voyez, l'idolâtrie est un mauvais procès, dans une certaine mesure, quand on lit ce genre de texte. Nous avons dès lors recours à la puissance du symbole, ce qui est mieux que certains barbares, qui, dit-on, font les dieux à la semblance des animaux, par des moyens médiocres, distingués au plus par la beauté, la majesté et l'élévation, peut-être est-il artisan de deux habilités à créer des statues de dieux, c'est-à-dire de l'homme, en l'occurrence. Bon. Donc vous voyez cette justification de l'anthropomorphisme, qui montre assez bien. Alors évidemment, on a affaire à un intellectuel de la période romaine, mais tous les documents que l'on peut pister bien avant, et notamment en fait, qu'il y a cette volonté de créer parmi les hommes des lieux privilégiés pour la manifestation du divin. Voyez, et de ce point de vue, on a affaire à une expérimentation permanente. Et la statuaire fait partie de cette expérimentation invisible. Et de ce point de vue, Dion Chrysostome pourrait être un commentaire en mots, je dirais, un commentaire de ce que le vase que je vous ai montré il y a un instant figure en image. Voilà, cette juxtaposition des plans, et on est à 7 siècles d'écart. Hein, donc, pour vous montrer que de ce point de vue-là, il y a des lames de fond dans ce système à travers les siècles. Donc, le premier point dont je voulais vous parler à propos du polythéisme grec, donc, c'était ce rapport aux objets, ce rapport au statut qui permet de définir le rapport au divin, la présentification de l'invisible, mais aussi la question du sacrifice donc, qui est essentielle. Et je vous l'avais promis quand vous m'avez posé la question sur les Perses, j'en viens maintenant à cette question qui me paraît fondamentale quand on essaie de comprendre les polythéismes antiques, c'est ce rapport à la religion des autres. Et ce rapport à la religion des autres, avant, je dirais, l'attribution de l'adjectif « veros » au terme de « religio », et donc, je vous l'ai dit, les dieux sont des concitoyens. Ils sont en quelque sorte captés par une communauté qui va leur faire des cadeaux, des offrandes, réaliser des statues, construire des hôtels, des temples, etc. Mais fondamentalement, même si un dieu est capté, il est potentiellement présent partout. Présent partout. Et en tout cas présent dans le cosmos, d'un point de vue immanent, comme je l'évoquais tout à l'heure, et toute la difficulté, évidemment, dans un contexte polythéiste, c'est de trouver le bon interlocuteur. De ce point de vue-là, en contexte monothéiste, c'est relativement simple. Tout le défi dans ce contexte interlocuteur adéquat, ou les interlocuteurs adéquats, parce qu'on peut se faire un petit panthéon de circonstances, hein, en fonction des contextes, trouver le bon interlocuteur pour obtenir quelque chose. Et cette capacité à identifier et puis à capter la puissance d'un dieu passe évidemment par le nom. Le nom est fondamental dans le processus de l'identification. Or, du côté grec, on trouve par exemple cette brochette de dieux que j'ai choisie pour vous, donc Zeus, Apollon, Dionysos, Hermès, Artémis, Aphrodite, Arès, Poséidon. Mais de leur côté, et je vais m'en tenir aux Grecs et aux Romains dans cette partie de la réflexion, on trouve Jupiter, Apollon, Bacchus, Mercure, Diane. Évidemment, je n'ai pas choisi les noms des dieux romains au hasard, puisque il y a une correspondance entre la liste des dieux grecs et la liste des dieux romains. C'est-à-dire que dans ce monde-là, la traduction du nom est possible. Et c'est pour un grec de reconnaître son Dionysos dans le Bacchus romain ou son Aphrodite dans la Vénus romaine et inversement pour un latin de reconnaître Mars dans Arès, est évidemment un mécanisme que nous devons, qui a une importance considérable dans la manière de concevoir la religion des autres. Ça veut dire que potentiellement, ce sont les mêmes dieux, mais qui se manifestent différemment et dont le contexte culturel est fondamental pour arrimer la relation. C'est-à-dire la relation, elle est toujours topique, elle est toujours locale, elle est toujours circonstancielle. Mais, théoriquement, on va dire, même si toute une série de Grecs et de Romains ne se posaient évidemment pas ce genre de questions, théoriquement, tous ces mécanismes de traduction montrent la potentialité d'un monde divin commun. Pas une sorte d'écuménisme, hein, parce qu'on reste quand même toujours dans du local, du topique, et ce sont mes dieux, et ce sont les dieux de ma communauté, et ce sont ceux-là qui vont me soutenir. Donc, il faut être très prudent quand on travaille sur ces questions d'interprétation des dieux. Mais en tout cas, il y a potentiellement cette possibilité de traduire. Et on le voit, ceci n'est pas uniquement un schéma théorique que je vous soumets. Alors là, encore une fois, je ne vous demande pas de faire du grec et du latin, mais simplement mettre en évidence ceci, c'est une seule inscription. C'est ce qu'on appelle une bilingue. Et donc, on est à la fin du deuxième siècle avant notre ère. Et à Délos, ici, vous avez un Romain, par toute une série de Romains et de Grecs, qui vont honorer, en fait, Zeus, libérateur, et Jupiter, libérateur. Et il y a donc un jeu intellectuel très intéressant, et j'aurais voulu être une souris pour voir comment ils avaient raisonné au moment, voilà, d'équivalence entre l'offrande. Donc, il y a un seul dieu destinataire, mais en fonction de la langue, eh bien, forcément, ce sera Zeus ou ce sera Jupiter. Parfois, les interprétations sont plus difficiles, plus délicates, et on voit qu'il y a une véritable créativité. C'est encore une fois ce que j'appelais tout à l'heure l'expérimentation. On est dans un système non dogmatique. Donc, non révélé, non dogmatique. Donc, ce qui est fondamental, c'est l'exploration, hein, et l'expérimentation par rapport à un système qui est pluriel. Donc, traductibilité, premier élément, par rapport à la religion des autres, premier constat, on va dire. Mais aussi, accroissement potentiel du panthéon et emprunt. Je vous donne un exemple. Un des emprunts qui peuvent parfois se traduire dans les noms. Regardez, je reprends mon schéma pour marquer qu'Apollon, il n'y a pas de traduction. Pourquoi ? Une partie de l'explication, en tout cas, c'est qu'en fait, Apollon a été importé de Grèce à Rome au début du 5e siècle avant notre ère. Rome était confrontée à une pandémie, voilà. On était déjà dans cette logique-là. Enfin, en tout cas, une pestilence. Et ils n'en sortaient pas. Ils n'en sortaient pas. Ils ont donc consulté les livres sibyllins, qui étaient un recueil d'oracles. Et l'interprétation de cette consultation a abouti à aller consulter un autre oracle, celui de Delphes cette fois, qui a conseillé aux Romains d'importer le culte d'Apollon à Rome. Donc, d'Apollon. En revanche, quelques années plus tard, ils sont allés chercher Asclépios, et là, ils l'ont traduit en Esculape, même si c'est une transposition. Mais donc, vous voyez là encore une expérimentation très intéressante, où on a un accroissement de son propre panthéon grâce à l'importation d'un dieu des autres, dans la mesure où la fonction était une plasticité et une fluidité dans ce système, qui n'est pas absolue, entendez-moi bien, tout ça est très réglementé, hein, je vous ai dit, première consultation oraculaire, deuxième consultation oraculaire, et puis évidemment, approbation du Sénat romain. Hein, on ne fait pas n'importe quoi dans cette affaire. Ce sont les dieux de la cité, c'est-à-dire qu'on fait venir des dieux qui seront concitoyens, donc on réfléchit. Mais néanmoins, cette potentialité existe. Donc, emprunt, accroissement. Si j'utilise la métaphore cognitive de la concitoyenneté des dieux, dans cette circonstance-là, Apollon est devenu un dieu concitoyen, un citoyen romain.
Donc en fait, les autres divinités romaines n'ont pas été importées. La fonction existait.
Disons que tout ça, c'est très ambigu. Hermès, Mercure, en tout cas, il y a des hypothèses sur une forme d'importation. Mais là, vous voyez que le nom est complètement différent. Donc manifestement, en fait, Rome a été soumise à l'influence, à l'hellénisme très tôt dans son histoire. On trouve des traces dès le 7e, 6e siècle avant. Et donc, par exemple, un dieu comme Mercure, qui devait être un dieu sous ce nom-là, un dieu local, s'est en fait enrichi de traits hermaïques, je veux dire, par la confrontation, par le voisinage, par le commerce des Grecs. Au sens strict et général. Donc, mais là encore, c'est un travail de réflexion sur les fonctions, sur les attributs, les manifestations possibles de ces divinités. Mais par exemple, Diane, c'était une déesse latine que Rome a, c'est en fait associée au moment où elle a commencé à s'étendre dans les territoires autour de la cité de Rome elle-même. Donc, on voit là qu'il y a eu une absorption, en fait, de toute une série de divinités. Le cas de Zeus et Jupiter, c'est clair que c'est la fonction qui est déterminante dans l'interprétation. Et quand on va en Égypte avec Hérodote, Hérodote au 5e siècle avant notre ère, parle de l'Égypte à des Grecs, bah, il utilise les noms grecs. Sauf dans un cas où il dit, voilà, Zeus, c'est Amon. Pourquoi ? Parce qu'Amon est au sommet du Panthéon. Et donc là, il y a une sorte de déséquivalence évidente. Pour d'autres dieux, c'est moins évident. Donc, j'arrive tout doucement au bout. Donc, plus que tout doucement. Donc, on voit bien que les sociétés polythéistes voient dans le monde des dieux une manière d'identifier qui est disponible. Et si ils n'ont pas encore pu identifier une fonction, ben, ils vont aller chez les voisins pour explorer et voir quelles expérimentations les voisins ont pu faire. Et si les voisins, eux, ont identifié cette fonction qui leur sert, ils vont la capter à leur tour en lui attribuant un nom qui leur est propre ou en gardant le nom, comme dans le cas d'Apollon, du dieu des voisins. Voilà. Alors évidemment, là encore, sur ce point, il y avait la question de la vérité avec le changement du paradigme du christianisme. Pour le nom de Dieu, c'est aussi quelque chose de tout à fait fascinant. Parce que Dieu n'a pas de nom. Il y a toute une réflexion du judaïsme sur le nom de Dieu, le nom de Dieu. Mais du côté chrétien, par exemple, il y a cette réflexion menée de la même manière. Dieu n'a pas de nom. Donc Dieu est intraduisible. Vous voyez, on est décidément toujours dans le contenu de ce changement de paradigme. Il y a vraiment quelque chose qui a changé profondément, à la fois dans le rapport à la manière de se relier, de se relier à cette figure divine transcendante, mais même dans la manière de le nommer. Le nom commun est devenu nom propre, donc il est intraduisible. Et donc, voilà, échange, traductibilité, accroissement, emprunt, et alors, tout un débat ces dernières années, grâce à toute une série de livres qui ont été publiés, sur la question de la tolérance dont les polythéismes feraient preuve par rapport au monothéisme. Je voudrais un tout. C'est le dernier point que je voudrais aborder, il sera beaucoup plus bref que les autres. Je voudrais un petit peu réfléchir avec vous sur cette notion. La vision polythéiste serait tolérante là où les monothéistes seraient par nature intolérants. Alors, une idée de vous dire, la question est très délicate, il faut l'affronter avec précision et rigueur pour éviter précisément les jugements de valeur. L'historien doit se garder de la peste ou du Covid. Et donc, moi, ce dont je vous ai parlé jusqu'ici, c'est évidemment d'une pratique des polythéismes et pas tout le point. Néanmoins, encore une fois, poser la question de la tolérance de cette manière-là, implique de convoquer une forme d'actualité, faut bien le dire. Donc, de quoi parle-t-on quand on parle de tolérance ou d'intolérance modifiée ? Les termes du débat permettent de le comprendre plus facilement. Pas plus facilement. En tout cas, de mettre à plat une série de jugements de valeur, possiblement. Et je vais revenir une dernière fois à la signification des mots et leur sens originel. Donc, tolérance du verbe tolero, qui signifie en fait le fait de... Enfin, tolerantia, c'est le fait de supporter quelque chose, comme la fatigue, l'effort. C'est donc une vertu de l'individu qui est patient, qui est endurant, qui traverse les différentes épreuves de la vie. En latin, c'est ça, et ça signifie tolérantia. Et le verbe est vraiment qui lui est associé. Donc, on supporte ce qui est pénible dans ce cadre-là. Et là encore, jamais en latin, sur la littérature latine, il n'est question de supporter ou de tolérer la religio des autres. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ce sont des coutumes ancestrales qui appartiennent aux autres. Voilà, c'est un fait. Et à partir du moment où vous avez déjà beaucoup de dieux, bah les dieux du voisin ne sont pas véritablement gênants. Au contraire, ils peuvent vous fournir des fonctions que vous n'aviez pas encore. Mais si l'on remonte à la racine du terme tolérance, on voit bien qu'il s'agit de supporter ce qui est pénible et cela ne s'applique pas en contexte religieux. Et donc, c'est dans le cadre du christianisme que la notion va être récupérée, mais soyez bien conscients qu'il faut attendre le XVIIIe siècle, un célèbre traité de Voltaire à cet égard, pour voir l'idée de tolérance à venir comme respect des croyances d'autrui. Mais il faut bien dire, c'est pour ça que je suis remontée au terme latin, le mot dans nos langues modernes ne s'est jamais totalement débarrassé du sens de supporter quelque chose qui est pénible. Alors évidemment aujourd'hui les attitudes sont pas tolérantes religieuses, mais ça reste quand même toujours de façon sous-jacente le fait de supporter quelque chose de pénible. Dans un contexte où nous avons affaire à des systèmes religieux qui réclament la vérité de leur message. Ça change complètement, encore une fois, le paradigme. Et donc, peut-on dire que les sociétés antiques étaient plus tolérantes ? Non, ça n'a pas de sens. La notion de tolérance religieuse est hors sujet. Donc je réponds, si vous voulez, à la question que je posais, la question un peu rhétorique que je posais d'emblée. Dire des religions antiques qu'elles étaient tolérantes, c'est un anachronisme. Parce que ce n'est pas ainsi que les choses se posent dans ces contextes-là. Chacun avait ses dieux, les potentialités des dieux des autres étaient activables si besoin en était. Et on pouvait compenser les manques de son propre panthéon en allant chercher les dieux chez les voisins. Donc, encore une fois, je le répète parce que c'est important, ce n'est pas un jugement de valeur de ma part, c'est un constat. C'est un constat. C'est comme ça que fonctionnaient ces systèmes. Et il faut bien reconnaître que si les sociétés antiques et les Romains n'étaient pas en reste dans cette perspective, se sont fait la guerre intensivement, il faut bien reconnaître qu'ils ne se sont jamais fait la guerre pour des questions religieuses. Donc ce ne sont pas des situations, des sociétés pacifiques, moins s'en faut, mais en tout cas, on ne se faisait pas la guerre pour ça. Voilà, ça on peut le constater. Ça ne veut pas dire, parce que encore une fois, le terme n'a pas de... Cette manière de poser le problème est un inconnu pour l'Antiquité. Et si l'on regarde les raisons de conflit, on voit bien que la religion n'est pas un objet de conflit, parce que ce sont des religions topiques, plurielles, qui ne revendiquent pas un message de vérité. Et donc, en tant qu'historienne des religions, et je terminerai par là, ce que je trouve passionnant, à la fois dans mon métier évidemment, mais aussi dans la démarche que vous faites, dans ces formations que vous suivez, c'est finalement de voir varier les solutions face aux problèmes relativement semblables qu'elles rencontrent. Et de ce point de vue-là, rendre à la religion toute la complexité qui est la sienne dans les différents contextes où elle se déployait me semble un exercice intéressant pour mettre un peu aussi à distance critique certains des problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Voilà, je suis à votre disposition pour des questions.
Ah. Il s'est arrêté juste au moment où vous avez dit que vous arrêtiez. Je me suis dit que
c'est magnifique.
Vous aviez une sorte de connexion magique avec le.
Pourtant, en général, les Mac de même.
Oui, voilà, vous adoptez, j'ai l'impression.
Voilà, merci beaucoup.
Merci beaucoup, madame.